Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, une partie de la rue et les pétitionnaires affrontent Boris Johnson en Grande-Bretagne. Près d'1 400 000 signatures contre sa suspension du Parlement pour imposer un Brexit dur. Mais l'opposition a-t-elle vraiment les moyens de l'empêcher? Pas sûr. Un pays européen s'enfonce dans la crise, un autre semble en sortir. En Italie, Giuseppe Conte, proche des 5 étoiles, est officiellement chargé de former un gouvernement avec les sociaux-démocrates. Les deux formations se détestaient il y a peu encore. Faire barrage à Salvini les a rapprochés. La Ligue de foot a-t-elle choisi la bonne méthode pour lutter contre l'homophobie dans les stades? Une partie des spectateurs se cabre contre les sanctions en cas de chant ou cri homophobe. L'invité de ce journal est le sociologue spécialiste de ce monde des supporters, Nicolas Ourcade. La Ligue de foot va réunir tout le monde autour de la table le 5 septembre. La rentrée compliquée de BFM et son propriétaire Altis. Les premiers chiffres d'audience montrent une chute depuis qu'elle n'est plus diffusée sur la Freebox. Bonjour Alexandra Akoun.
Bonjour Bruno.
Et ça pourrait être encore se compliquer.
Et pas qu'un peu, les accords avec Orange arrivent bientôt à échéance et Orange a déjà prévenu, le groupe ne paiera pas.
A tout à l'heure pour les détails dans ce journal encore, la PMA, comment ça se passe ailleurs en Europe? Chronique de Delphine Simon, Nicolas Sarkozy au MEDEF, vers la libération en Russie du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov. Et puis les deux professions de foi écolo du jour, Édouard Philippe à Roubaix, notre engagement pour le climat n'est pas de circonstance, dit le Premier ministre. Et les hôtels Marriott qui suppriment les petites bouteilles en plastique de shampoing dans les salles de bain. Bonjour Mathieu Vidal.
Bonjour Bruno Duvic.
La Terre au carré, quel est le programme aujourd'hui?
Êtes-vous un bon trieur de déchets, Bruno?
J'essaye, monsieur.
Nous allons vous réconcilier avec vos poubelles tout à l'heure dans l'émission et surtout répondre à toutes les questions sur le tri et le recyclage. Donc le standard est ouvert dès maintenant.
01 45 24 7000 et le mot-clé, l'attaque sur les réseaux sociaux. Merci Mathieu Vidard. De 13h jusqu'à 14h30, vous avez tout le programme du début de l'après-midi sur France Inter.
France Inter.
You're watching GMT on BBC World News. Our top stories. A day after the announcement to suspend the UK Parliament.
Petit extrait. BBC World à midi. Le sujet est évidemment toujours à la une chez nos confrères. La décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'à la mi-octobre et l'orage qui gronde très fortement contre cette décision dans le pays qui a inventé la démocratie moderne. Alors l'objectif de Boris Johnson, c'est d'empêcher les députés de s'opposer au Brexit dur dans lequel il est prêt à lancer son pays. Suspendre le Parlement, donc, hurlement de la gauche, d'une partie de la droite, de la rue, des milliers de personnes hier soir à Londres, Manchester et Édimbourg, et puis les pétitionnaires, près d'1 400 000 signatures contre ce projet. Alors cela dit, est-ce que Boris Johnson peut reculer, Antoine Gignot? Quelles sont les options sur la table?
Tout dépend en fait de l'ampleur de la fronde au sein de la majorité. Après la démission ce matin de Ruth Davidson, la chef des indépendantistes écossais, les critiques se multiplient. Ken Clark, le doyen des députés conservateurs, juge la conduite de Boris Johnson scandaleuse. Trois anciens ministres du gouvernement de Theresa May s'insurgent contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement. Si l'idée était venue de la gauche, explique l'un d'entre eux, on aurait parlé de tactique trotskiste. Mais pour véritablement mesurer l'équilibre des forces, il va falloir attendre mardi et la réunion des députés. Plusieurs élus, dont Philippe Hammond, l'ancien ministre des Finances, qui a rejoint les rebelles, vont déposer des projets de loi pour essayer d'interdire une sortie sans accord de l'Union européenne. L'opposition, de son côté, prépare une motion de défiance. Reste enfin la possibilité qu'une action en justice bloque totalement le Brexit. Plusieurs personnalités, comme l'ancien Premier ministre John Major ou la femme d'affaires Gina Miller, annoncent qu'ils vont saisir les tribunaux. Dans l'intervalle, le gouvernement fait bloc et s'appuie sur sa base électorale. Malgré ou grâce au remous, les derniers sondages créditent le Parti conservateur de 34% d'opinion favorable. C'est le score le plus haut depuis 6 mois. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
De la Grande-Bretagne à l'Italie, éjecter Matteo Salvini du pouvoir vaut bien un retournement de veste. Ces derniers mois, les populistes des 5 étoiles et les membres du Parti démocrate, la gauche modérée italienne, ont multiplié les invectives les uns à l'égard des autres. Eh bien voilà qu'ils vont sans doute gouverner ensemble. 9 jours après la démission du gouvernement Conte 1, l'alliance populiste extrême droite, le même Giuseppe Conte, proche des 5 étoiles, est chargé de former un nouveau gouvernement, cette fois avec le Parti démocrate.
Nous devons sortir le plus vite possible de l'incertitude politique née de la crise gouvernementale. Nous sommes confrontés à une conjoncture économique critique. Nous devons nous mettre immédiatement au travail pour définir une stratégie économique qui ouvre des perspectives solides de croissance et de développement social. Nous devons tout faire pour transformer ce moment de crise en opportunité et en occasion de relance.
occasione di rilancio.
Je précise tout de suite que ce ne sera pas un gouvernement contre, ce sera un gouvernement pour le bien des citoyens, pour moderniser le pays, pour rendre notre nation encore plus compétitive dans le contexte international, mais aussi plus juste, plus solidaire et plus inclusive.
Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Un grand pas, Isabelle, a donc été fait ce matin vers la formation d'un gouvernement 5 étoiles sociaux-démocrates. Ils sont d'accord sur le nom du Premier ministre et sur des points de programme aussi.
Oui, des chapitres essentiellement économiques. Les Rouges et Jaunes plaident pour une relance de la croissance avec une attention particulière pour les plus faibles, pour l'environnement. Et Giuseppe Conte a déjà défini le dossier prioritaire. Ce sera la préparation du budget. Car si le pays ne trouve pas 23 milliards d'euros, une hausse très impopulaire de la TVA aurait lieu dès le mois de janvier. D'autres sujets, en revanche, fracturent profondément cette coalition. Quelle position va-t-elle prendre sur la question migratoire, par exemple? Que faire des décrets Salvini qui ferment les ports italiens aux bateaux des ONG? Les 5 étoiles les ont votés quand ils étaient au pouvoir. Les démocrates n'en veulent pas.
Alors Isabelle, envoyée spéciale de France Inter en Italie, ce qui pourrait compliquer les discussions, c'est la répartition des postes.
Oui, ça risque d'être un moment assez mouvementé. Chacun veut pousser ses feux. C'est d'ailleurs pour ça que les consultations vont commencer très vite, dès cet après-midi, pour régler les susceptibilités personnelles. La presse italienne fait déjà ses pronostics. Di Maio à la défense, l'intérieur et l'économie pour les démocrates. Mais tout cela reste évidemment à confirmer.
Dernier point, Isabelle Labéry, les 5 étoiles ont l'habitude de consulter leurs militants directement pour les décisions importantes. Est-ce que ce sera le cas ?
Oui, bien sûr, les 5 étoiles veulent soumettre cet accord de coalition au vote de leurs partisans à travers leur plateforme internet de démocratie directe. Or, au-delà du fait que cette plateforme est très critiquée pour son manque de transparence, on sait que beaucoup de militants sont très hostiles à une alliance avec les démocrates. Donc ils pourraient très bien faire capoter le projet. Les observateurs politiques et Matteo Salvini se demandent combien de mois ou combien de semaines cet étrange attelage va tenir avant sa première sortie de route.
Merci Isabelle Labéry, envoyée spéciale de France Inter en Italie.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
On l'a vu au printemps dernier avec la Coupe du Monde féminine de football, les changements de société passent aussi par les stades. Depuis la reprise du championnat de France, la Ligue professionnelle de foot a lancé une bataille contre les chants et cris homophobes en tribune. 4 matchs interrompus pour cette raison depuis le début de la saison. Le dernier en date hier soir, Nice-Marseille. Et parallèlement, hier, la commission de discipline de la Ligue se penchait sur les cas des 18 matchs au cours desquels, en ce début de championnat, des chants et cris ont été entendus et signalés. Et elle a décidé, cette commission, la fermeture pour un match d'une tribune à Nancy. Bonjour Nicolas Orcade.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et membre de l'instance nationale du supporterisme. Est-ce que, au fond, la Ligue a choisi la bonne méthode pour lutter contre l'homophobie dans les stades, sachant qu'on voit une partie des spectateurs en train de se cabrer et le climat se tendre dans les stades?
Ce qui est certain, c'est qu'il faut lutter contre l'homophobie dans le sport, parce qu'il existe des problèmes qui d'abord d'ailleurs dépassent les tribunes des stades de foot. Donc l'intention est louable, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est que la manière de procéder effectivement a créé des tensions qui auraient pu être évitées par une concertation préalable avec les clubs et les associations de supporters, ce qui aurait évité les tensions actuelles. Parce que cette politique s'est mise en place dans un contexte qu'elle n'a pas pris en compte, qui n'a rien à voir avec les insultes homophobes, dans un contexte de tension dans les stades de foot entre les supporters ultra, c'est-à-dire ceux qui mettent l'ambiance et qui créent parfois quelques débordements, et les autorités. Et ces tensions préalables sont liées notamment au fait que les supporters ultras sont parfois interdits de déplacement à l'extérieur, voient leur tribune fermée quand ils allument des fumigènes, donc il y a un conflit préalable qui se cristallise sur la Ligue. Et en début de saison, il y a eu beaucoup d'interdictions de déplacement et ces arrêts subis de match. Et donc du coup, les supporters ultras l'ont pas perçu comme une lutte contre l'homophobie, mais comme une volonté de les sanctionner. Donc ils ont répondu en intensifiant les chants insultants, il y en a beaucoup plus depuis le début de la saison, par provocation, puisqu'ils ont le goût de la provocation. Et donc là, on est dans une escalade des tensions très dangereuses, il faut absolument sortir de ce cercle vicieux pour assurer à la fois la sécurité des stades et lutter efficacement contre l'homophobie, tout en préservant les libertés des supporters et l'ambiance des stades. Aujourd'hui, moi, ce qui choque, c'est qu'on présente les associations LGBT et les associations de supporters comme opposées, alors qu'elles pourraient travailler ensemble et que déjà certains supporters et certaines associations de supporters de football travaillent avec des associations LGBT. Il faut intensifier ce travail, il faut intensifier la concertation pour lutter efficacement contre l'homophobie.
Alors tout le monde va dialoguer autour de la table le 5 septembre, hein, c'est l'annonce de la présidente de la Ligue, Nathalie Bois de la Tour, ce matin. Il est question d'un lexique en préparation qui fixerait les mots qui seraient supportés, autorisés ou interdits. Est-ce que c'est une bonne piste ?
Alors, c'est déjà une piste, mais les choses sont plus compliquées que ça. C'est déjà une piste parce que pour l'instant, on a dit qu'on veut lutter contre l'homophobie dans les stades, mais sans définir ce que serait clairement une insulte homophobe et en se rapportant à la loi de manière un peu lâche. Donc, il faut revenir à la loi, essayer d'identifier ce qui est strictement discriminant de ce qui est juste du refus de l'insulte et donc faire le tri entre tous les slogans qui sont pas tous aussi graves. Mais il y a un problème autre, c'est que les supporters ultra, ils ont un registre qui oscille en permanence entre l'ironie, l'agressivité. Ils disent que c'est du second degré, mais en même temps, ils aiment provoquer. Et du coup, leur registre, c'est de dire, ben, finalement, on fait du folklore, quitte à provoquer. Et les autorités répondent, attention, c'est de la discrimination.
Nicolas Hourcade, juste une question, oui. Sur le folklore et la tradition, est-ce que cet argument-là est recevable? Alors, on va dire les choses de manière très directe. Cette habitude de crier OIS, enculé, quand le gardien adverse tire le ballon, est-ce que ça, c'est du folklore et ça passe pour vous?
Alors, ce type d'insulte se fait un peu moins dans les stades. Il y a eu des évolutions ces dernières années. Mais moi, mon espoir, c'est qu'on ait la même évolution sur l'homophobie que celle qu'on a eue sur le racisme. Il y a 30 ans, pour ceux qui connaissent les stades français, il y avait des insultes collectives. De tribunes, parfois des cris de singe, jets de bananes sur des joueurs noirs. C'était violent, mais c'était présenté comme du folklore. Et puis, les autorités sportives ont pris conscience que c'était pas du folklore, ont dit non, on peut plus tolérer ça. Et les supporters d'eux-mêmes se sont rendus compte que quand ils faisaient des cris de singe, même s'ils n'avaient pas d'intention raciste, c'était tellement choquant que eux passaient pour des racistes et c'était très blessant pour les joueurs. Et donc, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire, c'est en mettant tout le monde autour de la table, qu'on définisse une ligne jaune de ce qui est absolument inacceptable. Et faire comprendre que certains chants qui, si, pour leurs auteurs, c'est du folklore, ils peuvent être extrêmement blessants pour des homosexuels qui sont dans les stades. Donc faire prendre conscience que, par exemple, traiter un arbitre ou un joueur de sale PD, c'est inacceptable. En revanche, il y a peut-être une place ouverte à l'insulte, c'est un peu ce que la commission de discipline de la Ligue a laissé entendre
hier soir, oui, distinguer les deux.
Pas les choses de la même manière.
Oui. Est-ce que, comment dire cela, est-ce que le phénomène, mesurer l'ampleur du phénomène de l'homophobie dans les stades, que diriez-vous là-dessus? C'est un combat qui est urgent de mener, qui est très important. Quelle est l'ampleur de l'homophobie?
Ben, je pense que c'est un combat qui est urgent à mener sur les discriminations de manière générale. Aujourd'hui, on a des joueurs de football noir ou d'origine maghrébine, mais c'est beaucoup plus difficile pour les dirigeants. Pareil pour la communauté LGBT, on voit que c'est difficile aujourd'hui de s'affirmer comme pratiquant ou comme supporter et homosexuel. Très clairement, aucun joueur n'a fait son coming out pendant sa carrière. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc vraiment, il faut s'attaquer au sujet. Mais la déclaration d'intention du coup de la ministre est très bonne, puisque c'est fondamentalement la ministre des Sports qui a enclenché le processus. Mais derrière, il faut mettre en place un processus, définir des objectifs, est-ce qu'on cherche à lutter contre toutes les insultes ou uniquement contre les discriminations, et trouver une action globale, parce qu'il faut travailler sur les supporters, mais aussi sur les centres de formation, les entraîneurs, les joueurs, les éducateurs, enfin c'est vraiment un travail global, mais oui, il y a quelque chose à faire.
Merci beaucoup Nicolas Hourcade d'avoir répondu très clairement et de manière très détaillée à nos questions, et bonne journée à vous. Un autre bras de fer celui-ci entre deux costauds des médias, et le biceps d'un des deux est mis à très très rude épreuve, à cause du conflit qui oppose le groupe Altice, propriétaire de BFM TV, à Free, qui diffuse les chaînes via sa Freebox. Eh bien, BFM a enregistré mardi une baisse de 20% de son audience. Alors, rappel des faits, Altice veut faire payer Free pour la diffusion de ses chaînes. Refus. Du coup, BFM et ses petites sœurs ne sont plus diffusées sur la Freebox. Si vous en avez une, vous pouvez encore les capter sur la TNT ou sur Internet. Moins 20% d'audience tout de même. Alexandra Hakoun, grosse pression sur Altice, d'autant qu'un bras de fer similaire pourrait s'engager avec Orange.
En tout cas, le message délivré ce matin sur France 2 par Stéphane Richard, le PDG d'Orange, était on ne peut plus clair.
Pour nous, le principe est clair. S'il y a des services nouveaux qui ont une valeur pour le consommateur, on est prêt à regarder les choses. S'il n'y en a pas, c'est non.
Car pas de chance pour le calendrier pour Altice, alors qu'elle est embourbée dans sa bataille avec Free, les accords avec Orange arrivent à échéance dans quelques jours. Vu les circonstances, la date a été légèrement repoussée, hein, mais le problème reste le même. C'est TF1 qui a ouvert la brèche l'an dernier, mais en échange d'un prix pour la diffusion de ses chaînes, La Une a proposé un package des contenus exclusifs, des avant-premières, en plus du replay. Là, à part le replay, il n'y a pas grand-chose dans l'offre d'Altice, et je doute que même un accro à l'actualité comme vous, Bruno, regarde beaucoup BFM TV en replay. En fait, pour le spécialiste des médias Emmanuel Torrigano, fondateur du site d'info Electron Libre, on assiste à un changement de modèle où les chaînes classiques n'intéressent plus vraiment les opérateurs.
Pour les opérateurs de télécom, il est beaucoup plus intéressant de s'associer avec un Amazon, comme vient de le faire SFR, avec un Netflix, comme l'a fait Free, ou ils vont le faire bientôt avec Disney+. Disney+, très franchement, Orange, SFR, Bouygues, tous ces gens-là vont se battre pour avoir la meilleure offre. Ça, ça va être, à mon avis, le Graal. C'est pas BFM, le Graal, dans la télévision du futur.
Ça, c'est sûr. Reste à voir, en tout cas, maintenant, comment Altice va attaquer ses nouvelles négociations avec Orange, qui, avec près de 12 millions d'abonnés en haut débit fixe, reste quand même le mastodonte du secteur.
La France face à la sécheresse. Merci, Alexandra Akoun. La France face à la sécheresse. Quasiment toute la métropole est concernée. Et cette annonce ce matin du ministre de l'Agriculture, le gouvernement va autoriser la mise en place d'une soixantaine de retenues d'eau sur le territoire entre cette année et 2022 pour mieux gérer l'irrigation des terres agricoles. Les deux professions de foi écolo du jour. La première émane du grand groupe hôtelier Marriott. 7000 établissements à travers le monde. Et fini les mini bouteilles de shampoing Sandy Dauphin. C'est une vraie mesure contre la pollution plastique.
D'ici la fin de l'année 2020, le groupe hôtelier veut remplacer toutes les petites bouteilles de shampoing, après-shampoing et autres par des plus gros contenants avec des pompes. D'après la direction du groupe, le volume de plastique consommé devrait ainsi être réduit de 30% par an. Denise Nagy, vice-présidente de Marriott, au micro d'Associated Press.
On va ainsi supprimer 500 millions de petites bouteilles. Depuis que nous avons commencé en 2018, 1000 hôtels sont déjà concernés. Nous allons continuer avec nos autres établissements.
Une bonne nouvelle pour l'association de lutte contre les déchets Zero Waste. Pour sa chargée de campagne, Laura Châtel, question d'image, les grands groupes ne peuvent plus ignorer la prise de conscience sur la pollution plastique.
Ça montre que ces grands groupes, je pense, sont sensibles aussi à l'évolution de l'opinion de leurs clients, qui sont de plus en plus sensibles à la question de la pollution plastique. C'est aussi des grands groupes qui sont présents à l'étranger, dans des pays qui parfois n'ont pas de système de gestion des déchets. Donc effectivement, il faut qu'ils donnent des gages et qu'ils avancent sur ce sujet-là.
L'annonce de Marriott pour interdire les mini-bouteilles individuelles de shampoing dans les chambres d'hôtel intervient après celle d'un autre géant de l'hôtellerie, IHG, propriétaire de la chaîne Holiday Inn, 843 000 chambres dans le monde.
Autre profession de foi écolo, celle d'Edouard Philippe, le Premier ministre, en déplacement sur le thème du tri des déchets. Laurence Perron, c'est à Roubaix qu'était ce matin le chef du gouvernement, une ville très en pointe sur le sujet, pour faire sa rentrée.
Du terrain, du terrain, du terrain, le Premier ministre a entendu les recommandations du président 5 sur 5. Poignée de main, petites attentions.
Et toi, t'as quel âge, toi ?
6 ans et demi, je suis la taille d'un enfant de 7 ans.
Non !
Si.
Et Samy Verte, le Premier ministre, dont ça n'était pas exactement l'ADN au départ, lui l'ancien d'Areva, il s'y coule impeccable, passionné manifestement par les petits trucs de cette famille qui expérimente le zéro déchet.
Je n'aurais pas pensé à la poudre de coquille d'œuf.
C'est ça, mais il n'y a pas longtemps.
Voilà. Ah oui, c'est une découverte.
C'est une découverte. Et
donc
c'est...
vous la mettez sur la planche.
Voilà. Le coton-tige en bambou.
En bambou.
Voilà, une curette. Une pour la famille.
Et est-ce que ça vous prend beaucoup de temps ?
À la sortie, on lui soumet le scepticisme des Verts qui parle d'hypocrisie dans ce nouvel engouement écologiste.
Aucun camp, aucune formation politique, aucun parti n'a un privilège ou une exclusivité sur aucun sujet. Je pense que raisonner comme ça, c'est souvent très appauvrissant, intellectuellement et politiquement.
Et il avait insisté auparavant, l'économie circulaire n'est pas une préoccupation de bobo. À Roubaix, où près de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, être pionnier dans le zéro déchet pour faire des économies, ça a forcément un sens.
Laurence Perron à Roubaix avec Marc Garvenès pour France Inter. Ce thème du tri des déchets, eh bien, ce sera le sujet de la Terre au carré de Mathieu Vidard, juste après ce journal. 01 45 24 7000 pour vos questions et réflexions sur le sujet. Mathieu vous attend. Un ancien président de la République à l'université d'été du MEDEF, Nicolas Sarkozy, participait à un débat ce matin. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
C'est le Sarko Show désormais classique auquel vous avez assisté sur le thème « Je n'ai pas d'amertume ». Il est plutôt doux avec Emmanuel Macron.
Eh oui, une heure de formule, de petites blagues, de leçons géopolitiques. Et la première fut sur le Brexit.
C'est une erreur historique, mais dont vous ne mesurez pas encore les conséquences. Parce que vous savez, c'est facile le divorce. Hein, mais pour revenir... Oui, je sais, je sais. J'ai une certaine expérience.
Expérience avec son ex-femme Cécilia Attias. Les patrons apprécient le show. Au premier rang, son ancien élève devenu ministre Gérald Darmanin sourit sans applaudir. Et à aucun moment, Nicolas Sarkozy n'attaque Emmanuel Macron, bien au contraire.
Et moi j'ai approuvé la visite de l'invitation qui a été faite par le président Macron au président Poutine.
Allez, là, il distribue ses bons points et déstabilise ainsi encore un peu plus la droite en pleine crise. Mais il le promet, la main sur le cœur, ce n'est pas son objectif.
Moi, je ne fais plus de politique.
Difficile d'y croire.
Je ne fais plus de politique en ce sens que je n'ai plus d'ambition électorale.
plus d'ambition électorale, peut-être toujours en tout cas la volonté d'être sur scène, de rester dans le match, de distribuer ses points et de vendre des livres qu'il continue de dédicacer déjà depuis une bonne heure et demie.
Maxence Lambrec en direct de Longchamp avec Lucien Lefebvre. À 6 mois des municipales, La République En Marche est engluée dans les polémiques à Paris. Candidat officiel Benjamin Griveaux. Tout indique que Cédric Villani se présentera en dissident la semaine prochaine. Candy Griveaux répond ce matin au micro de Simon Le Baron.
Je lui ai fait des propositions de copiloter cette campagne à mes côtés, à la fois sur les grands choix programmatiques et puis aussi sur les personnes qui vont porter avec nous ces idées. Je suis certain que nous pouvons arriver à faire que nos convergences, qui sont bien plus nombreuses que nos divergences, eh bien, l'emportent à la fin. Je m'en remets à son sens du collectif parce que Paris, c'est une aventure collective, ça n'est jamais une aventure individuelle.
Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Avec vous, on va parler du débat de fond de cette rentrée autour de la PMA, la révision de la loi de bioéthique. Deux questions. Faut-il ouvrir la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes? Faut-il lever au moins l'anonymat des donneurs de sperme, au moins partiellement? Oui, répond le gouvernement dans les deux cas. L'examen du projet de loi, c'est en septembre. Il y a une série de consultations à l'Assemblée cette semaine. Cet après-midi, les représentants des religions sont entendus. Alors, comment ça se passe ailleurs en Europe? Votre chronique, chaque jeudi, dans le journal de 13h, Delphine. D'abord, quel pays autorise la PMA?
Eh bien, à ce jour, 11 pays ont ouvert ce droit à toutes les femmes, y compris les célibataires et les couples de lesbiennes. Il y a les pays du Benelux, l'Espagne, le Portugal, la Croatie, l'Irlande, le Royaume-Uni et les pays scandinaves. Deuxième cas de figure, les pays qui l'autorisent, mais uniquement aux femmes célibataires, comme la Pologne ou la Grèce. Enfin, un dernier groupe de pays réserve la procréation médicalement assistée aux hétérosexuels stériles ou dans les cas de maladies graves susceptibles d'être transmises au fœtus. 7 pays font partie de ce troisième groupe, dont la France, l'Allemagne ou l'Italie.
Alors, autre question, comment établir la filiation de la mère qui n'a pas porté l'enfant?
La solution trouvée en France, c'est d'inscrire mère et mère, oui, sur l'acte de naissance de l'enfant. C'est ce que vient de préciser Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Actuellement, seule la mère qui porte l'enfant est considérée comme sa mère légale en France, même s'il y a depuis 2013 une possibilité d'adoption. Alors, cette recommandation, cette reconnaissance automatique, c'est un peu ce qui existe déjà en Belgique, où la conjointe de celle qui accouche est automatiquement tenue comme parent, mais ça ne vaut que pour les couples mariés. En Espagne, ce lien de filiation passe par une déclaration de maternité en mairie, encore une fois pour les couples homosexuels mariés.
L'enfant né d'une PMA aura-t-il accès à ses origines? C'est une des questions clés en France. Comment ça se passe ailleurs?
Oui, si le don de sperme était anonyme jusqu'ici en France, 8 pays considèrent que les enfants ont le droit de connaître l'identité de leur géniteur. En Autriche, ils y ont accès dès l'âge de 14 ans. En Irlande, la loi vient de changer. C'est l'État qui préviendra l'enfant à sa majorité. Aux Pays-Bas, dès 16 ans, l'enfant a accès à des informations générales non identifiantes et le donneur de sperme n'a aucune obligation vis-à-vis de ses enfants. En Allemagne, c'est même inscrit dans la loi. Ce débat sur la filiation, il agite toute l'Europe actuellement, à tel point qu'au mois d'avril, le Conseil de l'Europe a demandé aux États de lever l'anonymat du don dans l'intérêt des enfants nés de ces PMA.
Comment ça se passe ailleurs en Europe? Merci Delphine Simon, on retrouve votre chronique sur franceinter.fr. Alors que le gouvernement fait de l'accueil des élèves handicapés à l'école un point majeur de la rentrée, quelques dizaines d'enfants et ados scolarisés en plus par rapport à l'année dernière, c'est plus que ça, c'est 23 500 enfants scolarisés en plus par rapport à l'année dernière. Voici une histoire qui fait tache dans ce tableau. Dans la Drôme, 257 enfants handicapés mentaux ne pourront pas faire leur rentrée. Il n'y a plus de place pour eux, dénoncent les parents. François Breton.
Il n'y a pas de place pour Duncan dans un établissement spécialisé. Pourtant, le petit garçon est sûr de lui. Il va faire sa rentrée.
Lundi prochain.
Non, pas encore.
Pourquoi? Bientôt?
On peut pas la répondre. Non.
Bientôt?
Oui, bientôt.
Bientôt.
Jérémy, son papa, a les larmes aux yeux. Il est obligé de mentir à son fils pour ne pas le déstabiliser.
Il a vraiment envie d'aller à l'école, il a envie d'apprendre. Quand il voit sa sœur rentrer le vendredi avec son cartable, je suis en vacances, tout ça. Notre fils qui nous regarde en pleurant, moi pas de vacances, moi pas école. Alors, on ne sait pas tout lui apporter comme réponse pour pas le blesser, quoi. C'est cruel.
Duncan attend une place dans l'un des 4 instituts médico-éducatifs de l'ADAPI de la Drôme. mais tout est saturé, explique Jean-Luc Chaurier, le président de l'association.
On a aux alentours de 250 enfants qui sont accueillis dans nos IME sur l'ensemble du département et on en a 257 prêts à rentrer. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on double notre effectif pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui sont orientées, encore une fois. On devrait pouvoir nous accorder les moyens en fonction des demandes.
Et pour alerter les citoyens, l'association va faire une pyramide de cartables samedi devant la fontaine monumentale à Valence.
Voilà pour ces précisions de François Breton et le chiffre des ados et enfants scolarisés en plus par rapport à l'année dernière et qui souffrent d'un handicap, c'est 23 500. De petits signes de détente entre Russie et Ukraine, ce qui ressemble à un échange de prisonniers célèbres, semble avoir cours. Bonjour Claude Bruyot.
Bonjour Bruno.
Claude, correspondant de France Inter à Moscou, un journaliste russe libéré par un tribunal ukrainien hier. Et de l'autre côté, Claude Bruyot, la libération du cinéaste ukrainien Oleg Sentsov semble imminente.
Oui, alors il y a eu ce premier signe positif effectivement de cette possible libération de Oleg Sentsov qui est intervenu hier donc lorsque à Kiev le journaliste ukraino-russe Kirilo Vyshinsky, jugé pour haute trahison dans la capitale ukrainienne, a été libéré. Cette démarche d'ouverture des Ukrainiens à l'égard des Russes, saluée aujourd'hui par Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, faisait partie des échanges cet été entre le président russe et le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le second indice fort, c'est l'annonce du transfert récent d'Oleg Sentsov, donc, de son pénitencier sibérien vers la prison moscovite de Lefortovo. Pour Zoya Zvetova, journaliste pour le site indépendant Mbera Media et militante des droits de l'homme à Moscou, l'espoir d'une libération rapide d'Oleg Sentsov est permis aujourd'hui.
Je suis sûre que demain ou après-demain, dans les jours qui viennent, très vite, on aura un grand échange entre les prisonniers ukrainiens et les Russes qui se trouvent dans les prisons en Ukraine. Je suis sûre qu'Oleg Sentsov, elle sera en Ukraine dans les jours qui viennent.
Alors Oleg Sentsov ne serait pas le seul prisonnier ukrainien libéré par la Russie. Les 24 marins arrêtés fin 2018 dans le détroit de Kerch en Crimée et détenus depuis à Moscou pourraient faire partie eux aussi de cet échange. En cas de confirmation, ce serait évidemment le premier signe de détente majeure entre la Russie et l'Ukraine à mettre à l'actif du nouveau président ukrainien Zelensky, mais également de la diplomatie occidentale et notamment des initiatives récentes d'Emmanuel Macron en direction de Vladimir Poutine.
Claude Bruyot en direct de Moscou pour France Inter. Le sport et le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir. Trois clubs attendent de connaître leurs adversaires. Trois clubs français, Paris, Lyon et Lille. En tennis, l'US Open, suite du deuxième tour. Ce soir, Nadal sur le court et aussi Nick Kyrgios, le numéro 30 mondial. Avec vous, Fabrice Abgral, arrêtons-nous sur le cas de cet Australien. Il vient de traiter l'ATP, l'association qui organise les tournois professionnels d'instance corrompue, après avoir écopé d'une amende de 113 000 $ pour une colère une de plus sur un terrain à Cincinnati.
C'est l'enfant terrible du tennis mondial, un garçon né il y a 24 ans à Canberra d'un père grec et d'une mère malaisienne. Un joueur surdoué et instinctif, adorable et sympathique en dehors du terrain, mais dès qu'il est sur le court, il est incontrôlable, irrespectueux et provocateur. Son talent est phénoménal, son tennis spectaculaire, mais tout ça est gâché par des attitudes déplacées. Cette double personnalité fait de Nick Kyrgios un joueur à part, capable à tout moment de bousculer les codes de bonne conduite. Sébastien Grosjean fait partie de ceux qui le connaissent le mieux. Il a été l'entraîneur de Kyrgios durant 6 mois. En 2017.
C'est bien d'avoir des joueurs avec du caractère, ils disent ce qu'ils pensent. Parfois à chaud, donc ça va trop loin. Par moments, il a du mal à se contrôler sur le terrain. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et puis, il a besoin aussi d'être aimé. Et c'est vrai que parfois, dans les conférences de presse, on sent vraiment les journalistes l'agresser sur des questions. Et donc, parfois, quand on est agressé, attaqué, on répond de la même manière en attaquant.
Le tennis manque de personnalité. Nick Kyrgios en est une vraie. Et c'est pour cette raison qu'il restera toujours un joueur sous surveillance. Il n'est pas certain que l'Australien l'accepte bien longtemps.
Dans 2 minutes, la Terre au carré. D'abord, la météo d'Élodie Calac.
Sur les régions voisines de la Manche, le soleil s'impose. Même chose sur la côte atlantique et le sud-ouest. Autour de la Méditerranée, plein soleil aussi. Du Limousin et de l'intérieur de la Vendée vers le centre, la Bourgogne, le bassin parisien, Champagne-Ardenne. Quelques passages nuageux encore, mais de belles éclaircies reviennent. Et puis, entre le massif central, les Alpes, le nord-est, de bons moments de soleil, mais avec une évolution orageuse pour cet après-midi, essentiellement sur le relief. Un risque d'orage sur les Pyrénées et la montagne Corse également. Les températures restent élevé, 20 degrés au Havre, 25 à Lille, 26 degrés à Paris, 27 à Nantes, 30 degrés à Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Nice. C'est très chaud vers le golfe du Lion, 34 à Perpignan et 36 à Nîmes. Il fera plus chaud demain et samedi, mais ça baissera dès dimanche.